franceinter.fr. Continuons en poésie. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Patricia, avec beaucoup de plaisir.
Le jardin, c'est nos racines vivantes, comme la colline est notre jardin. Un jardin, c'est un bout d'enfance cultivé.
Un jardin, c'est une leçon de respect que l'on doit aux choses, qui respectent le temps et que le temps respecte. C'est un lieu du passé au futur, une lente image des saisons, le début d'un processus de création, une aide à l'imagination. Le jardin cultivé à l'eau abondante, le jardin des collines aux sources cachées.
Les plantes de la terre ont besoin d'eau et du feu, la vie a commencé dans un jardin et elle continue.
Eh bien ce poème, sobrement intitulé « Le jardin potager » est de Jean Rey et je l'ai trouvé dans un livre de cuisine signé Jeanne Iglaise.
Peut-on vous demander qui est Jean Rey et qui est Jeanne Iglaise ?
Jean Rey était agriculteur et c'est lui qui a acheté et planté le jardin où officie son petit-fils, Jeanne Iglaise, un maître cuisinier qui a fait ses classes, excusez du peu, auprès de Jean Rostand, Pierre et Jean Troisgros, Alain Chapelle et Michel Guérard. Il est né en 1957, excellente année. Oui, le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et amoureux, il l'est de sa région, de son métier et de la nature.
Une nature admirablement évoquée dans son ouvrage.
Il en parle merveilleusement. J'ai choisi pour vous quelques extraits, je le cite. « Les herbes et assaisonnements sont une ponctuation, des accents qui relèvent le goût, qui nous font savoir où nous sommes. Et de poursuivre. Un peu de la garrigue dans nos assiettes, un souffle de mistral, une cuisine reconnaissable et reconnaissante envers les agriculteurs, toutes ces personnes qui ont œuvré dans l'ombre et sans que rien n'est possible. »
Êtes-vous sûr que c'est un livre de cuisine ?
Eh bien oui, alors je ne suis pas moi un familier des ouvrages de cuisine, je préfère laisser la consultation à mon épouse qui elle est un véritable cordon bleu. Non, moi je suis un contemplatif, j'aime regarder souvent les photos des plats, mais j'ai été surpris par le texte où il nous parle, je parle de Jeanne Iglaise, de son grand-père, de son potager, de la nature. J'ai vraiment adoré cet ouvrage qui est vraiment très agréable à lire. Alors, bien sûr, c'est un livre de cuisine. J'y ai trouvé des photos superbes, des textes magnifiques et 50 recettes illustrées. Alors, je vous sais gourmande, Patricia. Alors, j'ai choisi pour vous, en entrée, si vous êtes d'accord, des fleurs de courgettes farcies, sauce pomme d'amour et caviar d'aubergine.
Oh oui, je suis d'accord.
Ou alors, peut-être, le mesclun poêlé de légumes et fruits du temps à la sarriette et au laurier.
Je prends aussi, mais je prendrai bien un dessert après
alors,
tout ça.
Je vous propose une tarte à la courge et aux amandes de Provence. Alors, le livre « La bonne étape » de Jeanne Iglaise est publié aux éditions Brigitte Evenot. Il coûte 35 euros. Avec 35 euros, c'est le prix du bonheur des papilles.
Mais dites-moi, ce monsieur, c'est pas celui qui nous avait gentiment envoyé de la pâte de coin ?
Si, c'est un homme.
Qui était à tomber ?
Voilà, c'est un homme qui aime transmettre, qui aime communiquer. Il parle des jeunes qui travaillent à ses côtés dans cette voie. J'ai adoré le bonhomme et le livre.
Est-ce que je peux donner aussi deux idées ? Parce que je les ai vues.
Oui,
Collino ouvert comme un livre. Son Collino ouvert comme un livre avec un signet d'épinards et de l'huile de fenouil.
Ça va pas être mauvais. Hein.
Un dôme de chocolat noir, confiture d'orange amère et sirop de menthe.
Bah écoutez, on va prendre ça. Un café plus l'addition.
Voilà.
Non, mais c'est vraiment.
On va peut-être passer aux questions des auditeurs.
Oui, peut-être. Alors à propos des questions.
Oui.
Permettez-moi de parler des buis. Vous savez qu'on répond souvent aux questions sur les buis. Les buis, aujourd'hui, sont extrêmement malades. Je voulais signaler une initiative intéressante qui se déroulera non pas ce week-end, mais le samedi 2 avril, dans les jardins du manoir d'Erignac, en Dordogne. Vous savez, ce jardin qui est connu pour ses sculptures végétales, un jardin très régulier, l'un des plus beaux jardins de France. Alors, la semaine prochaine, le samedi 2 avril, de 9h à 17h, une journée entière est consacrée à l'étude de la maladie sur les buis. Des spécialistes seront présents pour en parler. L'ensemble de la discussion sera animé par Michel Polaco, que nous connaissons bien, qui est l'ancien directeur de France Info. C'est lui qui sera donc aux manettes pour animer les rencontres. L'occasion donc de rencontrer des professionnels, de voir comment travaille le jardinier en chef Laurent Chaban, celui d'Erignac, et de tout savoir sur les maladies des buis et peut-être comment les traiter. Donc pour avoir tous les renseignements, vous allez sur le site d'Erignac, vous aurez absolument tout, le tarif, etc. Mais c'est une très belle initiative que je voulais saluer.
Pierre vous demande la chose suivante. Mon oranger perd ses feuilles, je l'ai mis au sous-sol avant les premières gelées, il a de la lumière, je l'arrose une fois par semaine. Tout allait bien jusque-là, je ne comprends pas ce qui se passe.
Je suis pas sûr qu'il ait de la lumière. Je ne connais pas beaucoup de sous-sols qui aient de la lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit peu de luminosité, ce n'est pas parce que l'on est capable de se voir qu'il y a suffisamment de lumière. Vous savez, un végétal est une sorte de dispositif moderne qui dispose des panneaux solaires en périphérie du branchage. Regardez, le cœur d'une plante, il n'y a pas de feuilles. C'est souvent à l'extérieur. Eh bien, dans un sous-sol, eh bien, la lumière, même si l'on voit à peu près, eh bien, ne suffit pas. Il fait jour beaucoup plus tard, il fait nuit beaucoup plus tôt. Il y a une atmosphère qui ne convient pas à l'oranger, donc il faut le sortir rapidement. Vous savez, on va faire simple. Quand les feuilles sèchent, s'enroulent et tombent, c'est soit un manque d'eau, soit un excès d'eau. Lorsque les feuilles tombent sans avoir pris le temps de sécher, c'est soit un problème de lumière, soit un problème de chaleur. Il peut aussi y avoir dans le sous-sol un problème de température.
Un courant d'air, quelque chose comme ça.
Température. Vous prenez un oranger en pleine forme. Il vit à une température de 14 degrés. Vous tournez le bouton de la chaudière, vous montez à 18 degrés. Je vous garantis que le lendemain, toutes les feuilles, ou presque, seront tombées.
À ce point-là.
Eh bien oui.
Jacques, à des arbres de plein vent, cerisier, mirabellier, poirier et pommier, doit-on les tailler ?
Oui, alors attendez, certains arbres fruitiers ne se taillent pas comme le cerisier. Ils peuvent être taillés quand ils sont palissés, mais on laissera cela aux professionnels. Le mirabellier, pareil, les producteurs, eux, peuvent les tailler, mais on est dans un souci de rentabilité et de facilité de cueillette, mais sinon inutile de tailler le prunier. Quant aux poiriers, aux pommiers et autres fruitiers, c'est trop tard, il fallait le faire un petit peu plus tôt. Mais la taille des arbres fruitiers requiert de la compétence, difficile à expliquer à un radio comment faire, quels sont les bons gestes et comment distinguer le bourgeon à bois du bourgeon à fruits.
Autre question de Jacques, toujours, j'avais un prunier Reine Claude qui est tombé, je me suis aperçu que le pied était pourri. Je l'ai remplacé par un autre et après 4 ou 5 ans, nous avons vu apparaître des chancres sur le tronc. Il est mort très rapidement, j'envisage d'en replanter un, n'est-il pas risqué de le mettre à la même place ?
Si, parce que les maladies qui affectent les végétaux souvent se transmettent de la même famille. Lorsque vous avez des végétaux, il est évident que si un champignon s'attaque au bois d'un arbre que nous appellerons X, forcément, si un autre arbre appelé X vient à côté, il aura tendance à vouloir le coloniser. Donc, à moins d'extraire en totalité l'ensemble des racines dans la terre, il est toujours conseillé de mettre une autre variété d'une autre famille pour éviter justement que le champignon, en dormance dans la terre, ne s'attaque au nouveau végétal planté. Il faut aussi savoir que souvent, les végétaux, même les insectes, ne s'attaquent qu'à des végétaux faibles, dépérissants, mais parfois, vous avez comme les pourridiers, des champignons sacrément virulents. Donc, on est prudent, on ne replante pas au même endroit un arbre de la même essence dès l'instant qu'on n'a pas été capable d'identifier avec certitude les causes de la maladie.
Jamais 203, jusqu'à quelle date peut-on planter pour avoir de bonnes chances de succès ?
L'idéal, il faut commencer à réfléchir maintenant. Nous sommes le 26, je crois.
Le 26, oui, exactement.
Nous sommes le 26 mars. Allez, je vous accorde encore 15 jours, 3 semaines. Et après, c'est vraiment exceptionnel. À moins de planter en conteneur, mais c'est souvent coûteux. Donc, on commence maintenant à envisager d'arrêter les plantations, mais il est encore possible de planter. Petite parenthèse, 15 jours, 3 semaines de plus pour les plantes de racines de terre de bruyère qui acceptent des plantations plus tardives.
Servane a un voisin, lequel possède des sapins de plus de 20 mètres de haut qui font de l'ombre sur mon terrain. La mousse envahit un peu plus chaque année. Y a-t-il un moyen naturel ou légal d'éviter ou de ralentir cette ambiance ?
Vous vous rappelez la chanson Maxime Le Forestier, contre la mousse ? Il n'y a rien à faire. Eh bien, la mousse... Non, c'était la rouille, mais c'était...
C'était la rouille, mais oui. C'est ça, tout à coup, j'ai
eh bien,
un doute.
Contre la mousse non plus, il n'y a rien ou pas grand-chose à faire, parce que la mousse va bénéficier d'obscurité ou de pénombre, d'une terre humide, et généralement, quand vous retirez la mousse pour y ressemer un gazon, petit à petit, le gazon va disparaître et la mousse va revenir. Il n'y a pas grand-chose, mais la mousse, ce n'est pas forcément hideux, ça peut être très joli, évidemment, cela tâche quand on se roule dessus, mais à partir d'un certain âge, eh bien, souvent, on regarde le jardin un petit peu plus calmement, donc il n'y a pas grand-chose à faire, mais je ne pourrais pas non plus conseiller d'abattre des grands pins ou des sapins pour que l'herbe puisse vivre. Je préfère quand même voir des sapins que de l'herbe.
Colette vient de gagner un pommier passe-rose. J'aurais voulu avoir quelques conseils de plantation et d'entretien.
Ah, le passe-rose. C'est un très joli pommier. Il y a le passe-rose de l'Aveyron, il y a celui de Bosley. Ce sont des fruits magnifiques qui sont jaunâtres. Ils ont une chair croquante, parfumée. Mmh. C'est une splendeur. Il faut également savoir que ce sont des fruits que l'on récolte en automne et qui ont un excellent pouvoir en mars, pouvoir de conservation jusqu'en mars. Vous gardez les fruits très longtemps.
Ah oui.
Donc, il faut simplement aérer le cœur du végétal pour une petite coupe pour éviter qu'il y ait des problèmes de lumière, le planter dans une terre qui lui convient, donc une terre normale, et éviter l'excès d'eau, c'est tout.
Merci Alain Marathon.
À demain.
À demain matin, vous nous apporterez des petits œufs de Pâques ?
Oui, c'est prévu.